Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office, ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 16 Ordibehesht, 1402 du calendrier iranien, 6 mai 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Formation du bataillon Jalazoun à Ramallah pour venger le martyr de Kader Adnan. Téhéran a affirmé que les États-Unis étaient responsables de tous les actes terroristes passé et futur d'Israël, visant les savants et les installations nucléaires de l'Iran. Le cerveau de l'attaque terroriste d'Ahwaz, lié au service d'espionnage étranger, a été exécuté. Et la diplomatie iranienne s'inquiète de l'aggravation de la situation au Soudan. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Téhéran affirme que les États-Unis sont responsables de tous les actes de terrorisme passés et futurs d'Israël contre les scientifiques nucléaires et les installations atomiques de l'Iran. Dans un tweet, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale iranienne, Ali Shamkhani, a déclaré que les États-Unis devraient accepter les conséquences de leur soutien complice à Israël. Cela survient après que le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a déclaré que les États-Unis reconnaîtraient la liberté d'action d'Israël si l'Iran tentait d'obtenir des armes nucléaires. Washington et ses alliés occidentaux accusent Téhéran d'évoluer vers la capacité de produire des armes atomiques. L'Iran a rejeté à plusieurs reprises les allégations, citant la surveillance stricte de ses activités nucléaires par l'organe de surveillance de l'ONU pour le nucléaire. Pour l'Iran, le régime d'apartheid est factice d'Israël est sur le déclin et perd son pouvoir de dissuasion grâce à l'axe de la résistance. L'honorable Ayatollah Khamenei, le leader de la révolution islamique, a récemment affirmé que le déclin du régime israélien avait commencé il y a quelques années. Il a ajouté que le déclin s'est maintenant accéléré, appelant le monde islamique à saisir cette grande opportunité. Le chef du groupe terroriste de Harakat al-Nidal est le cerveau de l'opération terroriste contre une parade militaire en 2018 à Ahwaz, dans le sud de l'Iran, a été exécuté ce samedi matin 6 mai. Habib Chab a été pendu ce samedi 6 mai à l'aube selon l'agence officielle de presse Mizan. Surnommé Habib Asyoud, Chab était le principal planificateur de l'attaque terroriste contre un défilé militaire en 2018 à Ahvaz, chef-lieu de la province du Khuzestan. L'opération terroriste, qui s'est soldée par la mort de plusieurs civils innocents à Ahvaz, avait officiellement été revendiquée par les éléments du groupe Harakat al-Nidal. Ce terroriste de double nationalité suédo-iranienne avait planifié plusieurs opérations terroristes dans le pays, faisant des morts et des blessés. La diplomatie iranienne se dit préoccupée par la situation au Soudan. Le ministre iranien des Affaires étrangères affirme que l'ingérence de certaines puissances étrangères au Soudan a contribué à des circonstances de nature si inquiétante. La situation au Soudan est ultra préoccupante. Si des mesures appropriées ne sont pas prises, l'intégrité territoriale du Soudan serait menacée avec des ramifications pour la région, a prévenu vendredi le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian. Il a exprimé ses regrets face à l'ingérence et à la provocation étrangère au Soudan, appelant au dialogue et à la compréhension intérieure pour résoudre la crise sanglante. Le dialogue et l'entente interne semblent être l'option le plus viable pour mettre fin à la crise, a tweeté le chef de la diplomatie iranienne. En Cisjordanie occupée, un cortège funèbre a été organisé pour deux jeunes Palestiniens tués par les forces israéliennes samedi matin. Les deux Palestiniens, tous deux âgés d'une vingtaine d'années, ont été tués par balle lors du raid du régime sioniste contre un camp de réfugiés dans la ville de Tul Karem. Selon des sources locales, les troupes israéliennes ont affronté des Palestiniens dans le camp. Ils ont également empêché les médecins d'atteindre les blessés. Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, le Hamas, a réagi, affirmant que le crime israélien ne resterait pas sans réponse. Les dernières violences portent à 110 le nombre total de Palestiniens tués par le régime sioniste jusqu'à présent, depuis le début de cette année. Une vingtaine de victimes ont moins de 18 ans. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Sur fond de l'escalade des tensions en Palestine occupée, notamment en Cisjordanie, où les combattants de la résistance ne laissent sans riposte les crimes israéliens, le bataillon Jalazoun vient de se proclamer. Le groupe de résistance Jalazoun, basé à Ramallah, s'est proclamé vendredi 5 mai, suite à la mort en martyr de l'un des chefs du mouvement du djihad islamique de la Palestine, Kader Adnan, dans une prison israélienne, la bataillon promettant de venger le sang de ce martyr. Le prisonnier palestinien, le cheikh Kader Adnan, qui menait une grève de la faim pendant 86 jours à la prison de Ramallah en Israël, est mort en martyr le mardi 2 mai. La formation du nouveau groupe de résistance intervient alors que la lutte contre l'ennemi israélien se poursuit partout à Gaza et en Cisjordanie. les combattants de la résistance palestinienne ayant pilonné vendredi 5 mai la colonie de peuplement d'Avni Hefetz, située au sud-est de Tul Karem, selon l'agence de presse palestinienne Shehab. Les militaires israéliens ont mené une incursion dans le village de Choufa à Tul Karem et se sont affrontés avec des jeunes Palestiniens dont plusieurs ont été atteints d'asphyxie en raison de l'inhalation du gaz lacrymogène tiré par les forces d'occupation israéliennes. Un certain nombre d'autres Palestiniens ont été également blessés sous les balles des militaires israéliens. En outre, les combattants de la résistance palestinienne ont lancé des colis explosifs sur le poste de contrôle Al-Jalma, situé au nord de Jenin, en Cisjordanie. Par ailleurs, 3 Israéliens ont été tués et 41 autres blessés au cours des affrontements qui ont également fait 11 morts parmi les Palestiniens, toujours en Cisjordanie. Plus tôt dans la journée du jeudi 4 mai, les forces du régime sioniste ont attaqué la ville de Naplouse dans la partie nord de la Cisjordanie occupée, tuant 3 membres du mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas. Des témoins oculaires ont déclaré que les forces israéliennes ont pris d'assaut le quartier d'Al Yasmina de la vieille ville de Naplouse et ont ouvert le feu sur une maison palestinienne. Les troupes israéliennes ont utilisé des grenades à fusil anti-char lors de leur raid et ont empêché le personnel médical de s'approcher de la zone. L'armée israélienne a prétendu que les victimes étaient responsables d'une fusillade dans la vallée du Jourdain le mois dernier qui a tué 3 colons israéliens. Lors d'une autre attaque barbare, jeudi, les forces israéliennes ont tué une Palestinienne suite à une attaque au couteau présumée dans la ville de Houara, près de Naplouse. Iman Odé, 26 ans, a été tué d'une balle dans la poitrine tirée par les militaires de l'occupation à Houara, près de Naplouse, a rapporté le ministère palestinien de la Santé dans un court communiqué. Le Croissant Rouge palestinien a déclaré que la femme identifiée comme étant Iman Odé avait été transportée à l'hôpital de Rafidia dans un état critique. Des rapports ultérieurs avaient indiqué qu'elle avait succombé à ses blessures. Ces jours-ci, la situation est particulièrement tendue dans les territoires occupés de la Palestine, notamment en Cisjordanie. Les combattants palestiniens ripostent par tous les moyens aux innombrables crimes commis par le régime israélien, qui pour cause se trouve dans une crise sans précédent. Auparavant, les Palestiniens et les militaires israéliens ne s'affrontaient que dans le sud des territoires occupés et dans la région de Gaza. Mais les jeunes de la Cisjordanie, qui sont équipés de diverses armes, ont transformé cette région de l'est de la Palestine en une embuscade pour les sionistes. Cela étant, l'autorité autonome palestinienne avertit que la poursuite de la récente intensification des crimes quotidiens du régime israélien contre les Palestiniens pourrait avoir des conséquences désastreuses pour toute la région. Nabil Abu Rudaina, porte-parole du président de l'autorité autonome palestinienne, Mahmoud Abbas, a lancé l'avertissement vendredi après que les forces du régime israélien ont tué jeudi 4 Palestiniens, dont une femme, lors de deux attaques séparées contre la Cisjordanie occupée. Il a averti que la poursuite de l'escalade israélienne contre les Palestiniens, leurs terres et leur caractère sacré ferait exploser la situation dans la région et la passerait à une étape difficile à contrôler. Abu Rudayna a considéré le régime d'occupation comme entièrement responsable de l'intensification de la violence contre les Palestiniens. Il a appelé les États-Unis, le plus grand protecteur et allié du régime de Tel Aviv, à intervenir pour faire arrêter immédiatement ces agressions contre les Palestiniens.
Bonjour à tous, bienvenue ici sur les plateaux de Presse TV dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour de notre débat étant les craintes des États-Unis concernant le rapprochement irano-syrien. Pour ce faire, nous avons préparé, comme le veut le format débat, un reportage résumant la situation ainsi que les propos tenus par les États-Unis et les réponses obtenues par le gouvernement iranien. Nous allons également faire venir par la suite, à la suite de notre reportage, deux de nos invités, donc étant Madame Aïssar Midani, vous connaissez, analyste franco-syrienne, et également un autre de nos experts, Maître André Chami, juriste et expert en questions géopolitiques. Donc tout de suite, je vous propose donc le reportage et après cela, la venue de nos invités. Tout de suite, le reportage.
Au milieu d'une nouvelle vague de rhétorique anti-iranienne aux États-Unis, Téhéran a dit à Washington d'être en colère et de mourir de cette colère, rejetant les propos alarmistes du gouvernement américain concernant la visite historique du président Ebrahim Raisi en Syrie. Le département d'État américain a exprimé ses inquiétudes quant à l'approfondissement des liens entre l'Iran et la Syrie à la suite d'une visite historique du président iranien Ebrahim Raisi dans le pays. Mercredi 3 mai, le président Raisi est arrivé en Syrie pour une visite de 2 jours à l'invitation officielle de son homologue syrien, Bachar al-Assad. Il s'agit de la première visite d'un président iranien depuis que Daesh et le terrorisme soutenu par les États-Unis se sont emparés du pays en 2011. Le porte-parole du département d'État américain, Vedant Patel, a déclaré mercredi que l'approfondissement des liens entre l'Iran et la Syrie devrait être une grande préoccupation, non seulement pour les États-Unis et leurs alliés et pays de la région, mais pour le monde. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a fait ses remarques dans un tweet jeudi 4 mai en réponse aux préoccupations évoquées par le haut diplomate américain Vedant Patel. Les États-Unis ont exprimé leur inquiétude concernant la visite du président iranien en Syrie et ses résultats et les ont qualifiés de malveillants. Bien sûr, la colère de ce régime pervers est naturelle, car il a été vaincu en Syrie et dans toute la région par l'Iran et l'axe de la résistance, et il doit mettre fin à sa présence agressive en Syrie, a souligné Kanani. « Soyez en colère et mourrez de cette colère », a-t-il ajouté, reprenant une citation célèbre du défunt chef de la justice iranienne, Mohammad Beheshti, mort en martyr lors de l'attentat à la bombe de 1981 contre le siège du Parti de la République islamique par le groupuscule terroriste Mujahideen Khalq. Le mois dernier, le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Merdod, s'est rendu en Arabie saoudite dans le cadre d'une étape importante vers le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. La visite qui a eu lieu à l'invitation officielle du ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal Ben Farhan, était le premier voyage officiel d'un ministre syrien des Affaires étrangères en Arabie saoudite depuis 11 ans.
Nous revoilà sur les plateaux, donc tout de suite la venue de nos deux invités. Alors nous allons commencer par Maître André Chamy. Bienvenue Maître, de nouveau ici sur les plateaux de Presse TV.
Bonjour, bonjour à vous tous, à vos téléspectateurs, ainsi qu'à votre invitée, Madame Medani.
Notre deuxième invitée étant Madame Aïssa Medani, notre analyste franco-syrienne. Bonjour Madame Medani, ravie de vous avoir de nouveau avec nous sur le plateau.
Bonjour, bonjour à vous et merci de votre invitation. Bonjour à vous et à toute l'équipe Presse TV, à votre invité Maître Chamy et puis à tous les téléspectateurs.
Merci. Maître André Chamy, au vu de la situation, nous avons eu une semaine, on aurait pu dire positive encore une fois, dans l'élan de faire venir la paisibilité et la paix souveraine dans les pays du Moyen-Orient. On a vu ces dernières semaines avec l'Arabie Saoudite, on a vu ces dernières semaines la venue de M. Amir Abdullayan au Liban. Dernière visite très importante depuis 2010, on dit historique parce que ça fait depuis un certain temps qu'un président iranien n'est pas venu donc en Syrie. Pour finalement conclure par les Américains que c'est une situation extrêmement négative, alors que tout le monde souhaite que le Moyen-Orient, enfin c'est les propos tenus officiellement par les États du monde entier, tout le monde souhaite voir le Moyen-Orient être en paix. Et finalement, lorsque l'Iran en arrive à faire un pas de plus vers le côté de la paix dans le Moyen-Orient, on a ce genre de propos de la part des Américains. Est-ce que ce n'est pas un peu surprenant, sachant qu'on reproche à l'Iran de chercher à faire la guerre ?
Ah, pas du tout. C'est absolument pas surprenant de la part des Américains. Je me permets de rappeler que quelques semaines avant le début de la guerre contre la Syrie, il y a une responsable des affaires étrangères américaine qui disait à l'époque, elle s'appelait Michelle Flournoy, vous pouvez retrouver ses traces dans vos données, à l'époque, elle s'est adressée au président Assad par voie de médias en disant que s'il rompait ses liens avec l'Iran d'un côté et le mouvement de résistance de l'autre, et plus particulièrement avec le Hezbollah, il n'aura pas de problème. Et c'était annonciateur de ce qui allait arriver. Et au début, c'était le début de la guerre, si j'ose dire, au Moyen-Orient, parce qu'en réalité, ce qu'on a appelé le printemps arabe, c'était le début de la guerre contre le Moyen-Orient. On avait vu la visite d'Alibi, la Tunisie, l'Égypte à cette période-là. Et tout le monde s'attendait à ce qu'un jeu de dominos commence à tomber, c'est-à-dire d'autres pays commencent à s'effondrer face à cette espèce de vague de prétendue démocratie qui envahissait le Moyen-Orient. Et à l'époque, le président syrien répondait au journal Wall Street Journal qui disait « Moi, je ne suis pas concerné par ce qui se passe parce que nous sommes à l'écart, nous sommes un pays solide, etc. » Mais en réalité, j'avais envie de dire à l'époque qu'il avait mal compté, si j'ose dire, sur l'agressivité et l'offensive qui était menée contre son pays-là, parce qu'il pouvait s'attendre à une atteinte par un ou plusieurs pays, mais pas autant de pays en même temps et pas autant de moyens en même temps. Et effectivement, le déploiement de toutes ces forces et tous ces moyens par centaines de milliards de dollars contre ce pays-là, avec le déferlement d'hommes armés, pour ne pas dire de terroristes du monde entier, de plus de 80 pays du monde qui ont déferlé vers la Syrie, évidemment, un pays tel que la Syrie aurait dû disparaître de la carte. En tout cas, ne ressemble plus à ce que la Syrie a constitué comme entité depuis presque la nuit des temps. Et évidemment, la Syrie a pu résister grâce à quoi ? Grâce à ses alliances avec ses amis, et plus particulièrement l'Iran, parce qu'au début de la guerre, c'était l'Iran, et l'Iran seul qui était aux côtés de la Syrie, avec bien entendu la participation dans les mois qui ont suivi de Hezbollah, et un peu plus tard, si j'ose dire, la participation de la Russie, parce qu'il a fallu attendre de voir l'ampleur de cette guerre menée contre la Syrie. Et évidemment, il doit y avoir une sorte de reconnaissance de la part de la Syrie vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis de l'ensemble de ses alliés. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, cette alliance stratégique prend forme aujourd'hui avec cet axe que j'ai toujours appelé l'axe de l'espoir. Et quand j'avais fait mon livre là-dessus, la guerre de en Syrie ou contre la Syrie, était encore presque au stade du projet. Et évidemment, je m'y attendais, mais pas avec autant de, je dirais, de massacres contre le peuple syrien et autant de destruction contre l'entité syrienne et contre la nation syrienne. Aujourd'hui, nous voyons les dégâts. Maintenant, on doit passer à la phase de reconstruction parce qu'il y a effectivement toujours des zones occupées par des forces étrangères, notamment les Américains, du côté du désert, notamment sur la frontière entre l'Irak et la Syrie. Mais vous avez la Turquie qui est également au nord, qui continue d'avoir ses projets et joue un double jeu, pour ne pas dire un poker menteur, c'est-à-dire tantôt ils veulent se désengager en Syrie, mais en même temps ils veulent en quelque sorte en contrepartie un prix. Nous verrons comment les négociations vont se faire, même si on voit qu'en projet le départ des Turcs afin de permettre aux autorités syriennes de retrouver leur présence dans les zones précédemment ou en tout cas actuellement occupées par les Turcs. Les efforts syriens ne peuvent être accomplis qu'avec l'aide de leurs alliés et c'est à mon sens le sens de cette visite parce que nous sommes dans la phase de reconstruction et dans la reconstruction il y a l'aide de ceux qui ont contribué au rétablissement de l'autorité syrienne. Mais également, ils doivent en quelque sorte recueillir les fruits en même temps que la Syrie, parce que la reconstruction ne peut pas se faire avec les seuls moyens de la Syrie en tant que pays. Il faut des investissements, il faut des forces économiques importantes, il faut une industrie de reconstruction. Et l'Iran a incontestablement son rôle à jouer, et son rôle vient d'être annoncé par cette visite historique du côté du président Raisi. Je rappelle que la dernière visite a eu lieu par M. Ahmadinejad. D'ailleurs, cette visite, pour moi, était l'annonce de cet axe de l'espoir entre le Hezbollah, la Syrie et l'Iran, mais en même temps l'annonce de la première guerre, si j'ose dire, multinationale contre la Syrie. Et effectivement, aujourd'hui, la sortie s'annonce. Et à ce moment-là, évidemment, l'Iran, comme elle a été à l'entrée, elle sera également à la sortie de la crise, aux côtés du peuple syrien, aux côtés du gouvernement syrien, mais aux côtés des forces de la résistance qui se trouvent en Syrie.
Merci, Maître André Chami. Madame Aïssa Midani, alors, on a vu donc, encore une fois, la réponse américaine cette semaine. Elle fait un peu sourire parce que les relations entre l'Iran et la Syrie, même s'il n'y a pas eu de visite du chef d'État iranien en Syrie depuis 2010, donc les relations, surtout après que la résistance ait souhaité aider la Syrie face au terrorisme et aux attaques perpétuelles de différents niveaux, l'Iran a toujours été ces dernières années aussi ami et non pas et également partenaire de sécurité en Syrie. Donc la réaction américaine est un peu, exclusivement pour les médias, parce que annoncer que c'est grave que la Syrie et l'Iran se rapprochent, alors que ce sont tous deux des pays, encore une fois, sanctionnés, des pays dont des sanctions sont extrêmement difficiles à supporter pour le peuple, pas seulement pour que le gouvernement puisse gouverner correctement, mais le peuple en subit en principal les conséquences de la situation. Donc, est-ce que c'est pas ce genre de propos n'est pas exclusivement pour les médias et non pas pour les États, parce que réellement, la Syrie et l'Iran, depuis plusieurs années, surtout ces derniers temps, il ne fallait pas s'y attendre, cette visite de M. Raisi en Syrie.
Effectivement, je voudrais répondre à votre question en deux volets. Premièrement, le sens profond de cette visite, et puis deuxièmement, le pourquoi de ces réactions américaines. Alors, le sens profond de cette visite, il est pas seulement, en fait, il ne vient pas seulement consacrer la stratégie et les liens d'amitié et les liens stratégiques entre l'Iran et la Syrie, mais c'est aussi, il vient couronner une victoire commune contre le terrorisme, contre le plan qui a été, comme l'a exposé Maître Chami, qui a été tissé pour l'ensemble de la région par les Américains et les sionistes, hein, qui n'est rien d'autre que le nouveau Moyen-Orient selon eux. Ça, c'est très important. Ça vient aussi dans un monde qui se transforme et qui, où le monopole américain est violemment brisé et que cette relation, elle donne, cette visite, elle initialise aussi un rôle important des deux pays, de la Syrie et de l'Iran, non seulement à l'échelle nationale, à l'échelle locale, régionale, mais aussi à l'échelle internationale dans ce nouveau monde. Donc, en fait, c'est une nouvelle manière de... une manière de... un grand mépris, je dirais, ou une manière de coopérer au mépris de l'ensemble des sanctions et des soi-disant sanctions et de l'embargo qui est appliqué contre nos deux pays, d'une part, mais aussi contre une cinquantaine de pays dans le monde, dont la Russie, d'ailleurs. Hein. Il est important, donc, de voir ce contexte, les deux aspects. Maintenant, pourquoi les États-Unis, ils expriment leur colère, etc. Mais c'est aussi pour dire à leurs alliés qu'ils ne sont pas contents et puis ils continuent en même temps de dénigrer l'ensemble des deux, les deux pays et dénigrer l'ensemble de tous ceux qui d'ailleurs font échec à leur plan et qui refusent leur diktat hein, pour les dissuader de continuer les relations. On a bien vu que l'Arabie saoudite a repris ses relations amplement avec avec l'Iran, mais aussi avec la Syrie, que l'ensemble des pays arabes reviennent vers la Syrie, et en fait, alors que les États-Unis n'épargnent pas une seule occasion pour dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord pour le retour des Arabes à la Syrie, et parce que ça renforce la position de la Syrie. Un troisième point qui est aussi très important dans le sens de cette visite, c'est que la collaboration, la coopération entre la Syrie et l'Iran, elle n'est pas seulement immédiate, elle n'est pas seulement contre le terrorisme, mais elle est aussi stratégique pour qu'ils jouent ensemble un rôle important mondialement dans cette région et donc dans la reconstruction, dans la reprise et le redémarrage économique des deux régions. Il était question notamment de grands projets pour la construction des deux centrales électriques et la construction de chemins de fer, de lier l'Est à l'Ouest, donc lier l'Iran à la Syrie et puis de ce fait donc à la mer Méditerranée, que, entre parenthèses, les Américains considèrent comme étant leur chasse gardée.
Il ne faut pas oublier, oui, c'est vrai que la région... Syrie, si l'Iran donne la place aux côtés d'Oman, la Syrie, elle, donne en mer Méditerranée, donne accès à la mer Méditerranée. Donc, c'est un point
absolument
extrêmement stratégique.
Absolument. Oui. Et donc, les choses qui ont été discutées, notamment, il y avait des projets d'un chemin de fer rapide qui va de Téhéran à Damas ou à Alep et jusqu'à l'attaquer. Donc, tout ceci inquiète énormément non seulement les Américains, mais qui voient que les forces de résistance, je dirais, et puis dans la région, la main deviennent plus fortes et deviennent encore plus évidentes, je dirais, dans le sens où on n'a même pas peur mais de dire qu'on coopère politiquement, économiquement et militairement, etc., bravant donc l'embargo sur les deux pays.
Merci, Madame Midani.
Ce sont des points très importants parce qu'on brave l'autorité américaine, entre guillemets, dans la région. Un dernier point, juste trois secondes, c'est aussi un renforcement de l'axe du front de la résistance, hein, donc un renforcement de la résistance palestinienne, de la résistance libanaise, de la résistance irakienne, et les États-Unis voient leur jour prendre fin dans la région, comme ça a été promis et dit, répété à plusieurs reprises, aussi bien par le président par les Iraniens que par les Syriens et par les Palestiniens, les Irakiens, etc., tous les pays de l'axe de la résistance qui veulent absolument mettre fin à la présence américaine dans la région et qui doivent être donc poussés dehors incessamment sous peu, dirais-je.
Alors, je reviens sur le point que vous avez dit concernant donc la mer Méditerranée, parce qu'on oublie que les Chinois sont extrêmement présents en Grèce, puisqu'ils ont acheté des grosses parties du port grec au moment où il y a eu la grosse crise en Grèce il y a quelques années. Il y a donc cette route de la soie également qui est formée. Ça a un peu été le centre névralgique de cette guerre et de l'implication russe dans la guerre au Moyen-Orient et notamment en Syrie, hein, puisqu'il ne faut, pas oublier qu'il y a une présence militaire russe permanente également en Syrie. Et donc, cette voie-là est beaucoup plus stratégique que parce que l'Iran est également un pays producteur. L'Afrique fait partie du continent qu'ils essayent de viser avec leur savoir-faire au niveau des médicaments, de plein de structures technologiques. Donc, ça, ce sont des points extrêmement importants et qui, peut-être, est la raison pour laquelle les Américains crient au loup, au loup, au loup. Maître André Chami, je voudrais voir avec vous le fait que l'Iran a été extrêmement productif depuis ce dernier gouvernement, le gouvernement du président Raisi, Ibrahim Raisi. Ils ont été extrêmement productifs en matière de diplomatie. On a vu M. Amir Abdullayan extrêmement bouger à travers l'Eurasie, à travers le Moyen-Orient. Ça a été également le discours de M. Raisi lorsqu'il est devenu président. La région, la paix dans la région, la stabilité dans la région. Est-ce que ça a été aussi une manière aussi de une publicité pour l'Iran de montrer que si eux cherchent la diplomatie, les Américains, eux, cherchent la guerre? Est-ce que ce n'est pas une forme de publicité dans la diplomatie iranienne de bien montrer par l'action de son ministre des Affaires étrangères le fait qu'ils ne sont pas du tout à la recherche de la guerre, mais plutôt à la recherche d'une stabilité possible dans la région, quelles que soient les nations qui y vivent?
En réalité, il y a deux aspects. L'aspect intérieur par rapport à l'Iran, parce qu'il y a une autre politique qui avait été menée par ce que j'appellerais l'équipe de M. Zarif, et qui était dans le sens de s'ouvrir à l'Occident. Et vous verrez qu'avec l'ouverture avec l'Occident, on y arrivera à casser en quelque sorte cet embargo et ces sanctions contre le peuple iranien. Et puis on a vu que les Américains sont capables de déchirer tous les accords signés avec des partenaires fiables. Et du coup, maintenant, la nouvelle stratégie qui a été menée depuis l'arrivée de M. Raisi était, j'ai envie de dire, le contraire. C'est-à-dire, nous sommes prêts à négocier, mais pas avec n'importe qui et pas à n'importe quel prix. Ça, c'est pour la partie intérieure. Mais en même temps, il fallait transformer, comme on dit dans le rugby, il fallait transformer l'essai. C'est-à-dire, non seulement on annonce une nouvelle stratégie, une nouvelle politique, mais il fallait à ce moment-là s'en donner les moyens. Et effectivement, les moyens, c'est le déploiement de tout l'appareil diplomatique dont dispose l'Iran à travers le monde. Et nous avons vu vraiment une vague iranienne à travers le monde et qui a pris des positions pratiquement dans tous les continents, c'est-à-dire en Asie, en Afrique, en Amérique latine et évidemment au Moyen-Orient. Ce déploiement commence à prendre forme et commence à permettre à l'Iran de jouer un rôle, je dirais, incontournable. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de l'Iran comme une simple, entre guillemets, force régionale. Aujourd'hui, c'est une puissance qui a vocation à avoir un rôle international. C'est-à-dire, quand elle prend des positions, par exemple, par rapport aux sanctions prises à l'encontre du Venezuela, quand elle prend des positions par rapport au commerce avec la Chine et le déploiement par rapport à ce qu'on appelle le BRICS, prendre ses positions par rapport au traité de Shanghai. Ce déploiement diplomatique ne peut que permettre à l'Iran d'augmenter sa puissance et de monter en grade, si j'ose utiliser ce terme militaire, pour lui permettre de jouer un rôle beaucoup plus important, même que sa taille géographique et même que son positionnement, qui lui était d'ailleurs dénié par les puissances occidentales. Aujourd'hui, ils sont obligés de composer avec, mais ils ne savent pas par quel bout prendre, entre guillemets, l'Iran ou la République islamique d'Iran. Et c'est la raison pour laquelle nous constatons qu'il y a toujours des manœuvres contre l'Iran afin de casser le régime de l'intérieur, mais ces manœuvres échouent. Et en parallèle, au contraire, il y a une offensive indiscutable de la part de l'Iran pour améliorer ses positions. Et ces positions prennent forme aussi bien sur le plan économique, politique, mais militaire, c'est-à-dire sa participation directe ou indirecte dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine démontre la montée, encore une fois, en puissance de cette force iranienne et de son rôle qui va au-delà de ses frontières et qui va au-delà même du continent auquel il appartient. Nous sommes devant un nouvel ère qui s'ouvre pour l'Iran et pour le peuple iranien, indiscutablement. Et la manifestation, entre guillemets, diplomatique qui se passe aujourd'hui en Syrie, c'est juste un petit volet parmi un nombre impressionnant de volets qui s'ouvrent aujourd'hui à l'Iran.
Merci, Maître Henri. Ce que je voulais vous dire, c'est en me basant sur ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut dire aussi que l'Iran, en fait, s'en prend à cette image que les Américains leur ont marquée ces 10 dernières, voire 20 dernières années concernant État voyou, puisque c'est une expression que les Américains ont créée pour des États comme l'Iran qui ne souhaitent pas suivre le dictat américain ou l'impérialisme, comme certains disent. Est-ce qu'on peut dire qu'en montrant cette diplomatie au niveau international très active et très positive, puisque les résultats sont revenus, est-ce qu'on peut dire qu'ils s'en prennent directement à cette image d'État voyou? Et en quelques mots, parce qu'on a presque fini.
La caricature elle-même, si vous voulez, de la propagande américaine, parce que jusqu'à maintenant, ils qualifiaient du terroriste ce qu'ils voulaient, ils déclassaient certains pays, etc. Mais aujourd'hui, les Américains sont devenus la caricature d'eux-mêmes, parce qu'en réalité, à force de cataloguer tel ou tel pays de tel ou tel qualificatif, aujourd'hui, quand on voit le monde entier par rapport à ce qui se passe, notamment par exemple par rapport à ce qui se passe dans la guerre Ukraine-Russie, et nous constatons que la majorité du monde est contre les Américains et pas le contraire.
Alors merci, que les Américains croyaient qu'ils
allaient avoir une meilleure position dans cette guerre et allaient avoir une meilleure alliance contre la Russie et par la même occasion contre la Chine. D'ailleurs, ils essaient d'entraîner la Chine, mais la Chine ne tombe pas dans ce panneau-là et encore moins les Iraniens.
Merci, Maître André Chamier. Comme toujours, le débat se finit trop tôt et beaucoup de choses à dire, surtout concernant le Moyen-Orient. Je remercie à nos deux invités, Mme Aïssa Armidani et Maître André Chamier, nos experts du jour concernant le débat. De leur présence. Je vous dis, vous, chers auditeurs, merci de nous suivre. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet du débat, ici, dans la capitale iranienne Téhéran, dans les studios de Presse TV. Au revoir.
La dette publique française, un fardeau pour les générations futures. La réforme des retraites promulguée a suscité et suscite toujours beaucoup de questions. Toutefois, un élément est resté caché dans ces débats. La question des retraites, c'est aussi la question de la dette. La France a besoin d'envoyer des signes positifs aux marchés financiers pour ne pas voir sa note dégradée par les agences de notation. Le report de l'âge de départ à la retraite en est un exemple et surtout pour ne pas subir une nouvelle hausse du coût de remboursement de sa dette. Oui, la France a bien un problème de dette publique. Cette année, la charge de la dette, c'est-à-dire le coût de son remboursement, devrait atteindre 80 milliards d'euros. Elle pourrait même devenir le premier poste de dépense dans le budget de l'État. La France devrait donc assurer le remboursement de sa dette avant de pouvoir investir dans l'éducation, la défense, etc. pour ne pas être abandonnée par ses financeurs. Le gouvernement a conscience de ce problème. Il y a quelques jours, le ministre de l'Économie a annoncé un plan d'économie pour les ministères. Toutefois, même si cet effort est louable, cela reste une goutte d'eau dans un océan d'erreurs de gestion depuis des dizaines d'années. La France a beaucoup dépensé depuis la crise de 2008. Cette dette en once, et s'élevant à 116% du PIB, vient peut-être nous montrer que le pays a surtout trop dépensé. En face de ces fortes dépenses, on pourrait se consoler en se disant que les services publics restent de bonne qualité, mais cela n'est plus vrai. Des hôpitaux surchargés, une justice dépassée et une école publique qui a abandonné l'excellence. Le compte n'y est pas. Cette situation de surendettement français s'explique à la fois par la politique monétaire européenne, mais aussi par des choix politiques nationaux. Avec de faibles taux d'intérêt et un financement des dettes publiques, la politique expansionniste de la BCE a laissé la porte ouverte à un endettement croissant des États depuis la crise de 2008. Beaucoup de gouvernements européens ont alors cru au retour avec succès des politiques keynésiennes. La BCE finance via l'endettement les politiques de relance budgétaire des États. La France ne s'est donc pas privée de dépenser pour la crise liée au Covid ou pour les tensions liées à la guerre en Ukraine. La distribution d'aides sociales massives pour les particuliers et les entreprises avait une contrepartie, une dette en constante augmentation. Cependant, la situation se complique alors quand l'inflation revient. Toutes ces politiques expansionnistes n'ont pas échappé à la réalité. Trop de création monétaire provoque l'inflation. Alors, il faut lutter contre elle en remontant les taux, c'est-à-dire réaugmenter le prix de l'argent. Emprunter coûte donc plus cher. Ainsi, il faut consacrer toujours plus de budget au remboursement de la dette. Le cercle vicieux est lancé. S'endetter toujours davantage pour rembourser la dette précédente. Au-delà des contraintes monétaires, la dette peut aussi s'expliquer par le modèle social français généraux. La France peut s'honorer de distribuer de nombreuses aides sociales, mais sans contrôle de ces dispositifs, elles deviennent vite coûteuses. La fraude sociale et fiscale est une partie de la cause de la dette sociale française. Les dépenses sociales en hausse sont liées au manque d'incitation au travail. Par exemple, plus de 60% des bénéficiaires du RSA ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Plus largement, un modèle social ne favorisant pas assez le travail et offrant des aides sociales élevées nous fait prendre un chemin défavorable pour assurer des finances publiques saines. Enfin, les différents plans d'investissement et politiques publiques en tout genre mis en place s'ajoutent à des dépenses publiques incontrôlées et font de la France le pays le plus dépensier de la zone euro. Les conséquences de la dette se font déjà ressentir. Cette dette est la clé de toute politique sociale. Sans effort, la France continuera à dépendre de ses créanciers et ne pourra pas décider de grandes politiques coûteuses. Elle n'en a plus les moyens, à moins de braver le jugement des marchés au risque d'aggraver la situation. L'exemple récent du Royaume-Uni montre bien l'importance du regard des marchés sur les politiques gouvernementales. Pour rappel, le gouvernement de Liz Truss avait annoncé un plan de grandes dépenses non financées et notamment des baisses d'impôts massives. Or, les marchés ont jugé défavorablement ce plan, ce qui a entraîné une forte baisse de la valeur de la livre sterling et surtout une hausse très forte des taux d'emprunt de l'État britannique, les taux retrouvant des niveaux jamais vus depuis 2009. Tout cela a obligé la Banque d'Angleterre à intervenir pour éviter la chute des économies des Britanniques. Donc, le gouvernement a dû revoir son plan pour satisfaire les marchés. La France doit-elle suivre cette voie, c'est-à-dire dépendre de ses créanciers pour chaque plan d'investissement? Au vu des défis qui nous attendent, il faudrait être capable d'être indépendant. Cependant, cela oblige à respecter une gestion rigoureuse des finances publiques. Avec une dette record et un argent qui coûte plus cher, l'État doit renoncer à mettre en place des dispositifs sociaux, quelle que soit leur ampleur, car ils sont devenus trop coûteux quand il faut réduire à tout prix la dette. Ainsi, ce sont les plus démunis qui vont payer les conséquences de cette mauvaise gestion des deniers publics. Il faut maintenant arrêter les dépenses, durcir les conditions d'obtention des aides sociales pour économiser, et dans un contexte de forte inflation. De plus, la France a besoin de pouvoir investir sous contrainte pour faire face aux défis écologiques, technologiques. Il est évident que le budget de l'État doit prioriser l'éducation, les technologies plutôt que le remboursement des intérêts de la dette. Ce n'est malheureusement pas pour l'instant le chemin que nous prenons. Quelle solution ? D'abord, il faut retrouver la maîtrise des dépenses en mettant fin à l'accumulation de dispositifs temporaires comme les fameux chèques énergie, carburant, etc. Il faut aussi un vrai contrôle pour l'obtention des aides. Ensuite, l'incitation au travail doit être l'objectif des politiques publiques. Les aides sociales ne doivent pas être considérées comme un revenu permanent, mais une aide temporaire avant le retour à un emploi. En d'autres termes, la société ne peut pas financer l'oisiveté. Enfin, un dispositif indépendant de contrôle des dépenses de l'État devrait être mis en place pour s'assurer de leur efficacité. Plus globalement, une vraie réflexion sur la valeur du travail doit être menée. En effet, pour rembourser la dette et moins emprunter, il faut aussi créer davantage de richesses. Ainsi, la réforme des retraites n'est qu'un élément d'un cadre bien plus large. Le retour à l'importance du travail pour assurer notre modèle social.
Thank you.